Salut Alex.
Salut Gab, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien, très bien.
On a des bonnes nouvelles cette semaine. Mais en fait, pas des nouvelles de l'automobile, ça s'en vient, mais sur YouTube, notre chaîne, Plus de Millage, a atteint 100 abonnés cette semaine. Mais en fait,
Oui!
on a eu une progression fulgurante parce que quand on s'est parlé il y a 2 semaines, on avait comme 40, puis là, on est rendu à genre 112. Fait que ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Fait qu'on a commencé à partager ben, nos vidéos, évidemment, sur des endroits pertinents où il y a des gens qui ont envie de les regarder. La vidéo du ID4 est rendue à 1300 ou 1400 écoutes, qui est quand même
Autour
assez
de ça, ouais.
incroyable. Fait que c'est vraiment du positif. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, on vous invite à aller sur YouTube, taper Plus de Millage, cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Non, excusez-moi, subscribe pour vous abonner, puis ensuite la petite cloche pour être notifié. Puis si vous voulez qu'on essaie votre voiture, parce que cette semaine, on a réalisé un essai là, dont je vous parle un peu plus tard, d'une 535D. Si vous voulez qu'on essaie votre voiture intéressante, vous pouvez nous écrire à plusdemillage@gmail.com, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre rapidement.
Absolument. Puis évidemment, on tient à remercier tout le monde qui sont abonnés puis qui nous écoutent parce que, je veux dire, on ferait pas ça, évidemment, si on n'avait pas d'écoute, vraiment. Mais
Ben,
on est
c'est ça. On
surpris, on
fait
est
ça.
super content puis on aime ça.
On fait ça pour vous. Fait qu'on démarre notre long périple vers 1000 subscribers. Fait qu'on va
Oui.
essayer de se rendre là l'année prochaine.
Éventuellement.
Sur ce, les nouvelles, Alex, dévoilement du Niro, parle-moi de
Oui,
ça.
Kia Niro 2023. Moi, quand j'ai vu la première image là, cette semaine, j'ai fait ah, oh, ok, nouveau Niro. Puis là, j'ai comme eu une vague idée. Je me dis ah, oh, ils ont peut-être mis ça sur la plateforme EGMP Hyundai Kia, sur laquelle le Kia EV6 et le IONIQ 500. Mais Kia, ils disent pas grand-chose par rapport à ce dévoilement-là. Ils disent que l'extérieur a été rafraîchi. Puis effectivement, l'extérieur est beaucoup plus beau. Là, ça, il y a un beau design
Ça a beaucoup plus
l'intérieur
l'air
là.
d'un VUS, là, parce
Ouais.
qu'on s'entend, le Niro puis le Kona, ce sont des Hyundai Accent slash Kia Rio, comme
Slash venu.
Tiany, ouais, plus gros qu'un Venue, là, mais t'es comme adapté pour avoir l'air de des VUS. Fait que là, ça a plus l'air d'un VUS. Fait que le look est très bien réussi, mais on sait pas trop ce qui se cache en dessous, en
Ouais.
fait.
Mais l'intérieur, par contre, refonte complète. C'est comme. Tu peux pas les reconnaître, c'est impossible. C'est l'intérieur comme le Kia EV6. Super bel job, bravo. Mais effectivement, là, j'ai regardé les portes, là, les photos extérieures, ça semble être les mêmes portes, mais de la trim de plus. Donc moi, je soupçonne que c'est du réchauffé au point de vue de la plateforme et de la mécanique. Espérons, donc dans le fond, le Niro, ça va probablement être encore un trio d'une voiture hybride non branchable, voiture hybride branchable, ensuite une voiture électrique. J'espère et je soupçonne que la chimie de batterie pour la voiture électrique va être améliorée, donc une meilleure autonomie. Ça sera à voir lorsqu'ils dévoileront plus de détails. Mais ça, c'est une voiture qui commence autour de 25, 20, 27 000 $ canadiens dans la version hybride de base. Mais bon, il y en a quand même beaucoup sur la route. C'est assez
Ben,
populaire
il
au
y en a
Québec.
surprenamment là, des Hyundai Kona puis des Niro là. Fait que clairement, tu sais, je pense que c'est un des véhicules électriques que le constructeur veut en vendre. Si tu veux en acheter un, tu peux en acheter un. C'est un véhicule qui a ses défauts là, parce que c'est pas conçu fondamentalement comme une auto électrique là, ou une plateforme pour une auto
Non, c'est une
électrique.
voiture à essence adaptée.
C'est ça, exactement. On l'a vu, là, on en a déjà parlé là, qu'il y a un tunnel pour mettre l'arbre de transmission en dessous de l'auto, mais il n'y a pas d'arbre de transmission parce qu'il y a une batterie, en tout cas, ce genre de choses-là,
Puis la
mais...
batterie n'épouse pas la forme de ce trou-là, donc c'est une batterie qui traîne à terre. Quand vous voyez
Ouais,
un
c'est ça.
Kona électrique ou un Kia Niro, regardez en dessous de la voiture, vous allez avoir un genre de gros bloc d'aluminium. Ben ça, c'est la batterie qui traîne à terre.
Ben, elle traîne pas par terre, mais t'es
Elle traîne pas,
visible,
ouais,
puis
mais elle est
clairement,
visible.
elle est exposée, là, surtout si vous, comme, arrivez derrière sur la route, sur l'autoroute, si vous arrivez derrière un Niro ou
Surtout le
un
Kona. Le
Kona
Kona, c'est le plus
électrique, là.
évident à voir, là.
Ouais, on voit, c'est ça, ce gros morceau d'aluminium-là qui passe en
C'est
dessous.
impressionnant, mais c'est une batterie
Mais...
très, très monolithique, là. Elle est toute là, d'un coup, tu la dévisses, ça se tombe à terre. Tu sais,
Écoute, c'est
en tout
peut-être pas
cas.
bien compliqué à changer. Bref, on va voir, là, mais tu sais, je pense que c'est surtout parce qu'au niveau de la... Ah, on sait pas les prix encore, là, mais tu sais, un Kona ou un Niro est pleinement électrique, là, c'est pas nécessairement beaucoup moins cher qu'un
Ben,
EV6, Kia EV6
ça
ou un
commence à
Hyundai
47 quelque
Accent.
chose mille, là. Ça va
C'est
vite,
ça.
là.
Donc, je pense que si vous lâchez une auto électrique Hyundai ou Kia, achetez le vrai modèle électrique. Je pense que la pertinence des modèles électriques de Kona puis de Niro va diminuer rapidement quand le Ioniq 5 puis le V6 vont sortir. Mais
Ben, si
parlant
je
de
peux
Ioniq...
ajouter là-dessus, Gab, justement, là, parlant de la recherche, tu sais, voiture électrique, le Kia EV6, qui est présentement disponible en Europe, les gens en ont. En Amérique du Nord, les commandes s'en viennent, vous allez les recevoir bientôt. en même temps que le INX 5. Dans le fond, il y a un YouTuber norvégien qui s'appelle Bjørn Nyland, qui est super populaire, là, surtout. Puis lui, il est très, très technique, encore plus que nous, là, dans les voitures électriques. Là, t'sais, il regarde les températures de batterie, tout ça. Puis il fait des tests standardisés de 1000 km. En combien de temps qu'une voiture électrique, tu peux parcourir 1000 km en Norvège et en Suède? Puis, dans le fond, son champion maintenant, en dehors des Tesla, là, 150, 200 000, c'est le Kia EV6 qui a parcouru 1000 km en 9 minutes 50. En 9 heures, en 9 heures 50
minutes. 9 minutes 50.
Excuse-moi. 50. En 9 heures 50 minutes. Donc, c'est la limite de vitesse, c'est 120 là-bas, là, mais la recharge est tellement rapide, autour de 260 kW, que là, ça commence à gauler. Là. Ça commence à ressembler à une voiture à essence. Fait que c'est intéressant.
Fait que c'est super bien. C'est pour ça que je pense que c'est des autos intéressantes qu'on n'a pas encore essayées. On va pouvoir les essayer éventuellement bientôt, mais on va les recommander, je crois. Puis là, nouveau modèle Hyundai qui existe depuis un bout, mais que j'ai vu pour la première fois, un Santa Cruz Alex. C'est wow. Très beau.
J'en ai vu un. Ça a l'air beau design, striking.
Il avait l'air d'être full équipe. Là. C'était un 2.5 litres turbo. Il y avait tout. Il y avait le petit le tonneau cover, là, l'espèce de...
Ouais, qui est comme enroulé, là.
Ouais, l'espèce de truc qui s'enroule, qui va par-dessus la boîte. C'est quand même un beau véhicule, mais...
Cher.
C'est assez cher. Je pense que le Santa Cruz est plus beau que le Maverick, mais
plus
le
performant
Maverick
que
est
le Maverick.
Moins cher. Et plus performant aussi, plus puissant, mais malgré que le Maverick peut quand même avoir 250 chevaux là, avec le moteur turbo, là, mais... Ouais. Je sais pas trop qui va acheter ça.
Je pense que
la Maverick, c'est plus pratique. Je pense que le Santa Cruz, c'est plus un auto de lifestyle. Ça te permet une image. Mais tu sais, mettons que je voudrais mettre mon VTT dans la boîte, je prendrais le Maverick.
Mais ça rentre pas.
Plus.
Mais tu sais, mettons, là, imagine un acheteur type va chez Honda. Bonjour, je voudrais avoir un Ridgeline. Parce que les deux sont le même prix, Ridgeline et Santa Cruz. Pas la même grosseur, mais le même prix. Ah, désolé, on n'aura pas de Ridgeline avant X nombre de mois. Faites un dépôt ici, on s'en fout. OK. Le gars, il est comme un peu frustré, mais il peut aller chez Hyundai. Bonjour, je veux un Santa Cruz. Oui, on en a dans le cours. Même prix.
C'est sûr qu'il y a ça.
Même performance, mais c'est pas aussi gros. Mais quand même.
Je pense que je prendrais le Ridgeline avant de prendre le Santa Cruz. Là. Et je pense qu'au niveau de la valeur... Mais en fait, je sais... c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, la valeur de revente. Parce que les camionnettes, en ce moment, gardent très bien leur valeur de revente. Là. Écoute, j'ai vu un beau Ram Sport, qui est donc pas un modèle full équipe, 2019 à vendre, 52 000 piastres usagés l'autre jour. Puis je me disais, mais c'est probablement plus cher que ce qui coûtait neuf. T'sais, parce que quand ils sont sortis, les Ram 2019, ils étaient déjà à 25% de rabais. Là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, t'sais. Il a dû coûter 45-50 000 piastres, ce camion-là. Fait que, est-ce que Hyundai, est-ce que le Santa Cruz, va-tu tomber dans cette veine-là des camionnettes qui ont des valeurs de revente complètement farfelues, tu sais, je sais pas, contrairement à la plupart des véhicules Hyundai?
Ça va être à voir, parce que, tu sais, je veux dire, est-ce que Hyundai ont pas, tu sais, c'est pas les voitures avec la meilleure valeur de revente? Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises voitures, là, c'est comme ça, là. Ça va être à voir. Mais là, je veux dire, le créneau s'en va tellement vers là. Tu sais, j'ai de la misère à concevoir que Volkswagen, Toyota s'en vont pas vers là. Il y a de l'argent à faire là, avec ces véhicules-là. Là.
Ben, je pense que Volkswagen sont plus proches d'avoir un produit.
Oui, ils peuvent adapter l'Atlas quand même assez facilement.
Oui, puis ça fait des années qu'ils teasent le... Ouais. Je me souviens plus comment ils l'appellent, mais ça fait plusieurs années qu'ils présentent un concept de tout petit... De toute petite camionnette avec un 1.4 litres là, basé sur, j'imagine, quelque chose comme le Taos, le One for the
Moment.
C'est
le MQB, Gab, c'est basé sur tout.
Mais de toute façon, on ne sait pas sur quoi il est basé parce que c'est un prototype. Là. Ils l'ont jamais sorti. Là. Mais je pense que Volkswagen va arriver probablement plus vite. Ça me surprendrait qu'on en fasse un parce qu'ils ont déjà le Ridgeline. Toyota, ils doivent faire de l'argent comme c'est incroyable avec le Tacoma. Fait que je suis pas sûr qu'ils ont envie d'offrir quelque chose.
Leur offre de Toyota est immense. Hein. Quand tu regardes ça, là, Corolla, Corolla Cross, RAV4, toutes ces nomenclatures prime hybride, il y a Highlander, tu sais, il y a tellement de modèles, puis il y a un Highlander empattement allongé qui s'en vient en plus, le Highlander XL ou Grand whatever là. Ça a été parlé là, peut-être pas longtemps là, je t'en avais pas parlé, mais le Highlander, ils en veulent un plus gros Toyota. Fait, ils ont tellement de modèles Toyota là, ils peuvent pas en ajouter un autre là. Ça a comme pas de bon sens.
Ben,
donc c'est cher aussi.
Mais on s'entend que si tu faisais une camionnette qui serait comme un RAV4 à empattement allongé hybride seulement 4x4, tu vendrais ça le prix d'un Santa Cruz et en vendrait
des
choses incroyables.
Puis hybride seulement. Ben, en réalité, Gab, on s'entend-tu? Tu prends la Sienna et tu fais un pick-up avec. Exactement comme le Ridgeline, c'est un Odyssey et un pilote ensemble avec une boîte.
Oui, ben là, moi, ça serait peut-être plus gros, là, qu'est-ce que j'avais en tête, là, mais quelque chose, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose, mais je pense pas que Toyota va le faire, sûrement pas à court terme, là. Je pense qu'ils sont trop conservateurs, puis le Tacoma reste le véhicule le plus vendu dans sa catégorie, puis c'est pas le Maverick puis le Santa Cruz qui vont changer ça.
Non.
Je pense que ça fait le tour pour cette nouvelle-là, que je pense pas qu'elle ait duré aussi longtemps. Puis là, autre nouvelle, Alexandre, une auto que personne qui nous écoute va acheter. Porsche a lancé la Cayman GT4 RS. Fait que pour vous mettre en perspective, Porsche a toujours fait la Boxster depuis 1998. Fait que la Boxster, c'était comme une auto qui s'insère en dessous de la 911 dans la famille Porsche. Puis ça a été un grand succès. Puis à la différence de la 911, le moteur, il n'est pas derrière l'essieu arrière, il est central. Fait que c'est un moteur central. Il y a eu des Porsche Boxster et maintenant 718 Boxster là, avec des 4 cylindres puis des V6, des moteurs à plat à 6 cylindres. Puis depuis à peu près 2006-2007, il y a la Cayman qui est une version coupée de la Boxster, donc c'est comme une mini Porsche 911, mais c'est pas une Porsche 911. Puis il y a toujours des enthousiastes de Porsche qui ont dénoncé le fait que Porsche avait jamais mis les moteurs les plus puissants dans cette voiture.
Dans la Cayman, ouais.
Pendant longtemps, alors que le châssis, avec sa configuration moteur central, est en théorie mieux orienté vers la performance que la configuration de la 911.
Tu mets le même effort qu'ils mettent dans la 911 dans une Cayman, tu as une voiture supérieure à la 911.
Effectivement. C'est
physiquement, ça, juste à cause de la physique.
C'est ça, la théorie. Puis, il y a quelques années, ils ont lancé la Cayman GT4, qui avait un moteur aspiration naturelle de 400 chevaux, qui était comme essentiellement le moteur d'une 911 de base, là, ou le moteur un peu, des 911, pas de base, mais un peu moins que de base, des Carrera S, je crois. Puis là, ils lancent une Cayman, comme tout le monde a toujours voulu, avec le moteur de la Porsche 911 GT3, fait 4 litres,
oh, cool.
500 chevaux.
Ouais, ça, c'est
incroyablement rapide. Je pense que sur le Nürburgring, ils ont enlevé comme 23 secondes au temps de la dernière GT4. Puis ça coûte, je pense, à 160 000 $ US, à peu près 200 000 $ canadiens. Donc, évidemment, c'est une voiture extrêmement performante, très orientée vers la piste. Très peu de gens vont en acheter, puis je pense que ce qui va arriver, puis ça, c'est ce qui me déçoit un peu du monde actuel, là, puis on sort du monde de l'automobile, là, mais un peu de la pandémie puis de la situation économique, c'est que je crois que cette voiture-là, Porsche, va en vendre un petit nombre, en quantité limitée, parce que toutes les versions GT des Porsche, surtout les versions GT 2, 3, 4, RS, sont tout le temps, offertes en quantité limitée. Ben, soit les concessionnaires vont les vendre plus cher que le prix suggéré, ou il y a des gens qui vont les acheter au prix suggéré puis les revendre beaucoup plus cher après. Là.
Ah,
ça
ne
me surprendrait pas qu'on entende dire qu'il y en a qui se sont vendus plus de 300 000 $ US dans quelques semaines. Là, on le voit, une Mercedes AMG GT Black Series qui était à vendre aux États-Unis, le prix de liste, c'était 350 000 puis était à vendre 699 000 $ par le concessionnaire. T'sais. C'était écrit, dans le fond, Market Adjustment, 350 000 $ sur la fiche.
C'est
j'avais
fou,
vu ça,
ça
sur le site de TFL. Je pense que c'est ça qui va arriver avec ce taux-là. Fait que la réalité, c'est que personne ne va l'acheter. T'sais. Puis, ce qui est fascinant aussi, c'est que pour moins cher, tu peux acheter une Tesla Model S Plaid que tu peux commander. Ça va prendre une couple de mois avant que tu l'ailles, qui accélère vraiment, 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 vraiment plus vite que ça, qui coûte moins cher,
oui,
qui a l'air d'une auto normale. Puis
c'est attention, là. C'est pas pareil. Puis d'ailleurs,
non, je sais que c'est pas pareil.
En 2019, j'étais allé à Vegas. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux faire des tours de piste de plein de supercars. Puis moi, avec mon ami, on était là. Il avait pris une Corvette Z06 super capotée. Puis moi, je me dis, non, je vais essayer de quoi de plus simple, puis de plus. Que je vais être plus à l'aise de pousser. Puis il y avait une Cayman. Je me souviens plus du modèle, mais c'était pas le modèle de base. Puis ce qui m'avait impressionné, parce qu'à la fin du tour, là, tu peux t'asseoir dans toutes les voitures que le Ferrari, Lamborghini ou ZR8, whatever. C'était la plus confortable de la gang. La Cayman, tu t'assois à l'intérieur de ça. Super de beaux volants pris en main. Qualité de l'intérieur, là, tu sais, c'est du Porsche Audi haut de gamme, là, des boutons, tu sais, c'est impeccable. Puis là, tu t'assois dans la Audi R8 V10, les Ferrari, Lamborghini, tu t'assis sur une tonne de roche ou une tonne de briques. T'es comme, mais voyons non, tu peux pas rouler avec ça, là. Tu sais, je comprends, là, c'est des supercars, là, mais la Cayman, c'était malade. Puis tu t'assois là-dedans, je dis, oh, je suis capable de faire 1000 km d'autoroute sans problème. C'est facile.
Oui, puis
c'est vraiment,
que
Porsche, ils sont bons pour faire des autos sport.
Je pense que les Porsche en général, pour des voitures allemandes puis des voitures sport ou exotiques, là,
c'est
sont
bon.
Quand même des autos fiables. Là,
c'est des autos fiables, c'est ça, ouais.
Il y a des gens qui ont des Porsche Boxer 1998, là, pouvais en acheter une avant la pandémie pour à peu près 10 000 piastres. Je ne sais pas combien ça coûte en ce moment.
Ça ne brise pas vraiment.
Mais tu sais, c'est ça. Et puis, tu sais, il y avait quelqu'un de Porsche à un moment donné qui disait à la télévision, tu sais, les Porsche sont les voitures les mieux protégées contre la rouille. Avez-vous déjà vu une Porsche rouillée? Puis à part les Porsche Cayenne qui sont utilisés l'hiver, donc
j'ai les Boxster.
Parce que généralement, les gens, tu sais, en prennent soin puis les gardent en dedans l'hiver. Fait que c'est ça. Bref, tu sais, Cayman, GT4 RS, c'est super intéressant. Je pense que personne va en acheter. Ceux qui vont les acheter vont les garder puis pas s'en servir tant que ça. Mais c'est le fun que ça existe. Savoir que ça existe. C'est une licorne, comme on dit. Absolument. Parlant de licorne, notre essai de la semaine, Alex, qu'est-ce qu'on a essayé?
Un autre licorne. Oui, ça, c'est le vidéo YouTube qu'on a sorti aujourd'hui / hier, là, peu importe quand vous allez écouter le podcast. BMW 535D, la génération de série 5, l'ancienne génération, ça s'appelle la génération F10. C'était une 2016. C'était un essai vraiment intéressant. Allez voir le vidéo. Là, moi, personnellement, je pense que c'est un de nos meilleurs qu'on a fait à la date. Ça remet en perspective comment que les voitures diesel étaient bonnes au moment du scandale Volkswagen, quand toutes les voitures diesel ont comme toutes disparu du marché nord-américain.
Oui, mais surtout les berlines. Là, ben, ouais. En fait, même les vues, il n'y en a plus vraiment. Là, il y en a très, 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 très peu.
Il ben, y en a testé de la semaine. Gab, il y en a testé actuel du Suburban.
Oui, ben, en fait, oui, c'est vrai. En fait, on peut en parler parce que c'est sur Instagram. Là, cette semaine, puis la semaine prochaine, on roule en Suburban Duramax 3 litres, diesel. Une auto immense. Consommation d'essence annoncée sur l'autoroute de 8,9 litres au 100, ce qui est absolument incroyable.
Ça va faire partie de nos tests pour ceux qui sont curieux là, de voir son.
Les Américains se sont comme lancés dans les plus petits moteurs diesel 3 litres un peu plus tard. Là. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était je voulais essayer juste une BMW parce que je l'avais déjà dit en nom. Je comprenais pas les BMW. Puis c'est pas que je jugeais les gens qui avaient des BM ou quoi que ce soit. Je disais juste, faut que j'en essaye une pour comprendre c'est quoi qui est intéressant dans une BMW. Puis là, je pense que j'ai compris, Alex. Puis je suis d'autant plus content qu'on ait essayé une diesel. En fait, là, on va en parler un peu. On va peut-être commencer par les points forts. Puis après ça, on va arriver avec ce qui m'a surpris. Là. Puis je pense que le point principal de cette auto-là, c'est l'autonomie. Tu sais, tu fais.
Ben, l'autonomie, puis je pense que c'est la flexibilité de la puissance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas très très puissant parce que c'est 255 chevaux si je ne m'abuse, mais il y a tellement de couple que tu manques jamais. C'est ça, mais tu comprends, mais tu manques jamais de. Ça manque jamais de souffle. Ça va pas vite, mais ça n'en manque jamais. C'est très dur à expliquer le couple. Très dur à expliquer.
Parce que c'est une auto de 255 chevaux, 413 livres-pieds de couple, donc c'est plus de couple qu'un Dodge Ram, mais c'est aussi moins de puissance que la plupart des voitures avec des V6 à aspiration naturelle. Fait que c'est comme une combinaison quand même curieuse, là. Mais tu fais entre 6 et 7 litres au 100, mettons un peu moins que 7 litres au 100, t'as un gros réservoir d'essence.
Fait que tu fais plus que 1000 km sur le tank.
Ouais. On était à moitié de la tank, il restait 450 km, puis c'est l'hiver, puis il faisait. Bref. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, là, c'est le comportement routier, la suspension. C'est sûr que là, l'auto était sur des roues de 20 pouces, mais ce que tu réalises.
Même à ça, c'était correct.
C'était quand même très confortable, à moins que tu pognes un gros trou à basse vitesse. Là, puis là, ça, c'est normal là, avec les pneus. Là, mais t'es clairement, quand tu pousses un peu cette auto-là, tu réalises que ce châssis-là, cette voiture-là, la suspension est faite pour prendre beaucoup plus de puissance que 250
ben, chevaux. C'est essentiel. Tu sais, la M5, là, la voiture est extrêmement modifiée, mais le châssis en tant que tel, la géométrie de la suspension est la même, on s'entend? Les morceaux sont plus gros, puis les gros freins, plus gros moteurs, des meilleurs amortisseurs, mais une M5 puis une série 5, c'est essentiellement la même voiture. On s'entend?
Ben c'est ça. Fait
que la construction est la même.
T'as un sentiment de confiance sur la route là, qui est assez incroyable. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que l'intérieur est de très bonne qualité, mais sans être dans le... C'était moins luxueux que je pensais. Puis là, ça, c'est pas un défaut. C'est plus comme...
Moi, ça va être un défaut, mais c'est correct.
Tu sais, dans le fond, j'ai compris que BMW, t'achètes ça pour la conduite, le prestige, puis la
performance. Tu sais, la performance tout allée, dans le sens que t'es dans une grosse berline, plus cossue, plus soft, mais tu vas quand même avoir une bonne performance. Tu peux en donner à la voiture, puis elle va t'en redonner.
Ben, c'est ça. Mais tu t'achètes pas ça pour avoir plein de petits matériaux de luxe, puis de
non,
choses comme ça.
C'est pas comme une Mercedes du tout.
T'as du cuir, mais tout est ferme. C'est ça que je remarquais. Tout est ferme, de qualité, durable, mais c'est pas fait pour être comme... C'est pas une Bentley. C'est pas ça que je recherche là, comme feeling. J'ai de la misère à l'expliquer là, parce que j'ai moins de comparables, mais c'est pas... C'était pas comme une Mercedes. C'est pas la même.
Ben, je veux dire, mais c'est, mettons, Mercedes, là, c'est comme, eux autres vont aller plus dans l'opulence. Tu vas avoir une classe E au même prix. les matériaux, le bois, le cuir, là, tu sais, c'est comme, c'est une expérience de texture. Tandis que la BMW, tu vas toucher au matériau, ben, c'est la même chose que dans n'importe quelle auto. Mais c'est pas cheap. Tu sais, t'es pas comme dégoûté par les matériaux. Tu vas juste faire, ah, c'est des matériaux. Tu sais, puis ça change rien à ton expérience.
Oui, effectivement. Mais si on va vers les points faibles, moi, je trouvais que le iDrive était trop compliqué.
Oui.
Il y a trop d'affaires. C'est trop loin. Peut-être il y a tellement de menus, mais la petite roulette, ça fonctionne, puis tout, mais...
Il y a juste trop de menus, Gab.
Il y a juste tellement de choses, là.
Il y a comme trop... Moi, je pense que la moitié des fonctions pourraient être éliminées et personne ne s'en rendrait compte. C'est vrai, là.
Ben, probablement. Ben, c'est vrai de beaucoup de logiciels dans la vie en général, là, mais...
Mais surtout, ça m'a surpris parce que mes parents avaient, avant d'avoir le RAM, tu sais, le RAM que je te parle, mes parents ont un CX-5 puis un RAM, là, on avait une BMW 328i, l'ancienne génération, fait que c'était F30, peu importe. Puis c'était le même système iDrive, là, avec le même genre d'écran résolution, puis je la conduisais, puis j'étais toujours distrait par l'écran. Puis là, on était en 2014. Tant qu'on n'avait pas les cellulaires ou tout aussi. Tu sais, c'était beaucoup moins... J'étais là genre, comment ça se peut pas que les voitures deviennent dérangeantes comme ça? Puis c'est le même iDrive, puis j'avais le même sentiment, tu sais.
Mais c'est ça. Puis tu sais, Top Gear avait ri de la génération avant celle-là, de la M5. Puis tu disais, c'est tellement compliqué de mettre toutes les settings pour être en mode sport. Puis, là, mais là, dans la M5, il y avait un bouton, c'est juste écrit M dessus. Il y avait rien d'autre, ça avait l'air de rien. C'est juste M, puis M, ça faisait tout ce que tu voulais pour aller vite, tu sais. Fait que, mais là, il n'y a pas de bouton M, tu es dans l'auto qu'on a essayé, là. Mais je trouvais que c'est un peu trop compliqué. C'est un peu cher aussi, là. C'est sûr que cette auto-là neuve devait valoir à peu près 80 000 $. Puis c'est comme attendu que ça vaille ça. Mais tu as quand même une bonne dépréciation, là. Une 2016, là, ça va être entre 30 et 40 000 $. Ouais. Ça va continuer de déprécier dans les 5 prochaines années jusqu'à à peu près 10 000.
Imagine 000, en 2025 sur Kijiji à 7 995.
Ouais, probablement. C'est l'auto, je pense que c'est le genre d'auto que tu veux acheter du premier propriétaire. Si tu l'achètes du deuxième propriétaire, t'es peut-être correct.
Peut-être du troisième.
Si tu l'achètes du troisième, ouais, tu veux pas l'acheter du gars qui l'a acheté 9 995, je pense.
Parce que bien entretenues, ces autos-là sont bonnes. C'est qu'aussitôt que tu vas commencer à négliger l'entretien, là, ça va être une dégringolade fulgurante.
Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça qu'on a mis un peu. Là, la fiabilité, c'est inconnu à long terme. Parce que BMW, ça semble être une des marques, ou en tout cas, du moins, les modèles qui ont 15 ans aujourd'hui de BM...
sont capricieux.
Tu veux pas avoir ça. Il y a plein de... Il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui rendent ton auto comme... perte totale mécaniquement, là, sans que tu fasses accident. Là. Fait qu'il faut... Mais là, on sait pas cette auto-là. C'est une diesel. J'imagine, honnêtement, c'est sûr que ça doit être quand même plus robuste là, comme mécanique. Là. Fait qu'on... C'est pas une fiabilité mauvaise, c'est une fiabilité que nous, on connaît pas bien ça. C'est que ça nous est inconnu. Ouais.
Une chose est sûre, la transmission, c'est impeccable. Parce que c'est la ZF 8HP, la transmission qui est dans toute. Ça, oui, cette transmission-là est reconnue pour être bonne et très fiable. Fait que ça, la transmission, oubliez ça, ça va bien aller.
Ouais, mais non, effectivement. Mais tu sais, je pense, honnêtement, pour le moteur, j'en ai aucune idée. Là, je sais pas. Je sais pas à quel point ça va être fiable ou pas fiable. Je sais que ces autos-là, généralement, déprécient assez vite, puis c'est ça qu'on constate. Mais en même temps, on s'entend, là, t'achètes une BMW 535 2016, ça te coûte à peu près le prix d'une...
Quoi,
Honda Accord de base, une Civic
Touring. Pas Honda Civic, là. Civic avec un groupe d'options, là.
Mais mettons une Civic Touring, là, ou de la Civic la plus équipée, elle tombe à peu près dans ces prix-là, là. Fait que, tu sais, ça dépend c'est quoi que tu veux. Moi, je trouve ça drôle un peu parce que l'image que tu projettes dans ta voiture, elle est partiellement, puis souvent en grande partie déconnectée du prix que tu as payé pour ton auto.
Ben oui.
Tu peux t'acheter un Mercedes ML d'il y a 10 ans pour moins cher qu'une Spark neuve.
Ouais.
Fait que c'est Pierre-Yves McSween disait ça, il avait rencontré un monsieur à un moment donné qui était quand même assez bien nanti, puis il y avait un VUS Mercedes, puis il disait, vous avez une belle voiture, puis le monsieur dit, ah, moi je les achète toujours usagés. J'en achète un usagé de 3-4 ans, personne ne voit la différence.
T'sais. Ben oui, c'est vrai.
C'est ça la réalité là, d'une voiture de luxe, là, c'est que ça coûte pas si cher que ça, faut que tu puisses payer l'entretien, puis sur cette auto-là, un set de pneus sur des roues de 20 pouces, ça coûtait la totale. Mais, tu sais, c'est faisable. En fait, c'est juste qu'il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque quand on fait ça. Puis, appréciation, tu veux qu'on poursuive avec la qualité?
Ouais, ben, c'est plus... excuse-moi, là, j'étais en train de me concentrer sur nos notes. Ce que je voulais parler de la conduite, surtout, tu sais, on en revient à quand on a parlé de ce qui nous impressionnait. Ce que j'ai beaucoup aimé de cette voiture-là, c'est la suspension. Parce que là, clairement que les amortisseurs là-dessus, là, c'est genre heavy duty. Ça peut prendre n'importe quoi sur l'autoroute, là, puis c'est juste... Mais c'est... Là, fais mon parallèle, tu sais, une voiture avec une suspension à l'air, c'est ultra confortable, mais aussitôt que tu pognes une bosse, tu sais, t'as le rebond, puis t'sais, tu le sens, le rebond. Tu sais, c'est... Le mot en anglais, c'est
wall-y, je pense qu'on pourrait faire la comparaison avec le Cadillac XT4 qu'on a essayé récemment. Le Cadillac était sous-amorti, c'était tu flottais, fait que toutes les petites imperfections de la route, tu s'en allait.
Disparaissait.
Mais là, ça, c'est comme sur-amorti, fait que mettons que tu tournes vraiment fort, mais tu sens que c'est pas juste le ressort qui t'empêche d'écraser.
L'amortisseur, il y a beaucoup de restrictions, c'est ça.
Dans ton transfert de poids, t'as vraiment beaucoup amorti, puis t'as assuré un contrôle impressionnant.
Avec ces amortisseurs-là très, très durs, BMW n'a pas besoin de mettre des ressorts tout aussi durs qui rend la conduite relativement confortable. Tu vois où
mais
je veux en venir?
C'est vrai, parce que quand on se fait dire qu'une voiture allemande, tu te pètes le dos,
ça dépend lesquels.
En tout cas, dans cette auto-là, c'est pas vrai. Je sais pas.
Ça dépend lesquels.
Audi Q5, Q7, c'est horrible, on n'a jamais conduit un, fait que je le sais pas, mais... Je pense que c'est la vraie réponse, c'est ça dépend. Puis surtout que là, les pneus, les roues de 20 pouces, ça ne pardonnait pas sur cette auto-là.
On n'avait rien pour nous aider, puis c'était très confortable.
Exactement. Fait que je pense que ça, il faut y aller au cas par cas. Là. Ça, c'est un des mythes ou préjugés là, qu'il faut démystifier. C'est pas parce que tu as une voiture allemande que c'est pas confortable, ça dépend de laquelle.
Puis pour ce qui est de la qualité d'assemblage du véhicule, ben moi, j'ai rien à dire. Là. C'était très, très bien assemblé. Généralement, les BMW, c'est toujours des voitures extrêmement bien assemblées, extrêmement bien construites. Ça ne veut jamais dire, et ça c'est un mythe, qu'une voiture bien construite est tout aussi fiable. Allez voir, mettons, les Jaguars, les Land Rovers, des voitures avec des matériaux de construction exceptionnels. Attention aux détails impressionnantes, mais la fiabilité est moyenne. C'est comme ça. C'est la vie.
Ça me fait penser à les voitures italiennes, puis le Fiat, oui. le 500X, qu'on sait jamais s'il va disparaître ou pas parce que personne n'achète. Mais là, il y a une nouvelle version.
Oui.
Je disais sur Car Driver tantôt, il y a une nouvelle version avec un toit en toile du 500X qui s'en vient, puis ça disait une nouvelle version du 500X que personne n'a jamais demandé, mais qui est quand même cool. Mais tu sais, genre, qui va chez son concessionnaire, puis je sais pas. Mais écoute, c'est ça. Fiat 500X, c'est pas mort, ça existe encore. Vous pouvez en acheter un. Vous pouvez en acheter un usagé pour probablement pas très, 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 très cher non plus. Probablement.
Mais mettons qu'on revient à la BMW, Gab. Si toi, tu nous donnes une petite conclusion sur ce véhicule-là.
Ben là, honnêtement, je pense que j'ai vu la lumière. J'ai compris pourquoi les gens achètent des BMW. Je sais pas que j'en achèterais une, parce que... C'est pas ça que je veux ou c'est pas là que je suis dans ma vie, mais tu sais, je comprends. Puis je comprends aussi que généralement, tu prends ça neuf, tu loues 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ça, ouais. BMW, je pense qu'ils ont des plans aussi où ils offrent le service puis l'entretien. Fait que tu as comme la paix d'esprit que tu n'auras pas besoin.
C'est comme clé en main un peu.
Ben, c'est ça. Là. Puis je pense, ils font ça en fait pour augmenter la valeur de revente de leurs autos. Là. Fait que tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ils font 50 000 km par année, puis ils ont des excellents revenus, puis ils ont une auto de fonction, puis c'est une BMW 535. Ben là, je comprends, puis je respecte ça maintenant. Puis c'est pas que je jugeais les gens qui avaient des BMW, au contraire, mais.
Tu comprenais pas.
Ben, là, c'est ça. Il fallait que je comprenne, puis là maintenant, je comprends. Puis je comprends c'est quoi une Mercedes, puis je comprends c'est quoi une BMW, puis je suis content de l'avoir essayé. Puis écoute, c'est ça. Peut-être qu'un jour, j'aimerais essayer une plus petite BM, série 1, série 3, quelque chose comme ça, série 2 maintenant.
La série 2 vient de sortir la nouvelle génération. Ça va avoir
quelque chose de plus nerveux. C'est pas que c'est pas nerveux, l'auto qu'on a essayé, c'est juste que c'est différent. C'est beaucoup plus gros là, que une série 1.
C'est beaucoup plus civilisé que ce qu'on pense d'une BMW dans notre tête. On s'en
C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que là, j'ai vu la lumière, Alex, sur les BM. Ouais. Je respecte ça.
Puis moi, pour conclure, ben je suis... J'ai beaucoup aimé l'exécution de ce véhicule-là. Tu vois que les gens, ils ont travaillé fort à développer une... Tu sais, faire le tuning de la suspension avec des roues de 20 pouces, là, ça ne va pas être simple. Ça prend probablement des pièces extrêmement immenses, en fait, très lourdes. Puis ça me fait penser à... Puis ça fait le parallèle avec le Suburban. Vous écouterez le ou les vidéos que nous sortirons sur ce véhicule-là, parce qu'on l'a deux semaines. Comment que les voitures diesel, s'il n'y avait pas eu le scandale Volkswagen, seraient encore plus meilleures aujourd'hui? C'est impressionnant comment les motorisations diesel des 5 dernières années sont bonnes. C'est impressionnant.
Ça, ouais, c'est, il y en a encore. Puis ce moteur-là, si vous regardez la camionnette avec la meilleure consommation de carburant, pas d'essence, mais de carburant, c'est le Silverado 2x4 avec le diesel. Puis même plus économique que le Ram HFE qu'une version
c'est 7.1 litres au 100, cette autoroute, Gab.
Ben oui, c'est absolument incroyable. Je pense que le Silverado 2 roues motrices diesel puis le Ram HFE, c'est des autos qui ont 1000 milles d'autonomie. 1600 km.
Mais non, ça se peut pas, Gab.
Ben, le Ram, je pense qu'il a une tank de 121 litres, puis il fait 7 litres au 100.
Ah, OK, ça marche. Tu me le calcules, ça marche, mais c'est juste que c'est comme désemparant, là, 1600 km d'autonomie. Pour mettre en perspective, c'est Montréal-Windsor, aller-retour. Tu fais la 401 au complet, aller-retour.
Ouais, quelque chose comme ça.
C'est fou, là. Ou tu fais Montréal, la fin de la 138, puis tu mets de l'essence au bout, puis tu reviens. Ouais.
J'ai mon rêve un jour, quand on va avoir 1 million d'abonnés, là, j'aimerais ça qu'on prenne un Ram éco-diesel, qu'on achète une tank de 500 litres chez Princess Auto, un petit tuyau qui descend dans ta cagasse, puis on traverse le Canada non-stop.
C'est sûr qu'on fait ça. C'est, dans le fond, Montréal-Vancouver, 4200 km avec un seul réservoir d'essence.
Ouais, mais le réservoir auxiliaire, mettons.
Oh oui, mais bon. t'auras jamais ravitaillé.
Sur ce, Alexandre.
Oui, merci, Gab.
À la semaine prochaine. Non, à dans deux semaines, puis allez voir sur YouTube les prochaines vidéos.